l'écho des mobilisations, la voix des travailleurs et travailleuses, les luttes en cours dans la région et parfois plus loin, les alternatives politiques, sociales, économiques, vous écoutez l'hebdo de Micro-Rebelles, magazine d'actualité dans le bassin minier et au-delà. Bienvenue à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et vous écoutez Micro-Rebelles Hebdo, le magazine d'actualité du bassin minier et au-delà. Alors, nous sommes en podcast tous les vendredis sur notre site microrebelles.fr où vous pouvez donc écouter cette émission et découvrir l'actualité du territoire. Et nous sommes également diffusés sur Radio PFM 99.9 à Arras et sur Radio Mythe FM 93.3 à Dunkerque. Cette semaine, nous aurons, comme toutes les semaines, un agenda social et culturel des événements à venir sur la région. Et dans cette émission, vous entendrez également de la musique. Et on démarre tout de suite cette émission de Micro-Rebelles Hebdo par un entretien. Un entretien réalisé par notre collègue Pierre. Il s'est entretenu avec Pierre Vadelot, qui est doctorant en sciences politiques et qui a mené pendant près de 2 ans une enquête sociologique auprès d'habitantes et d'habitants du territoire du bassin minier et notamment de la ville de Lens, où il a vécu pour pouvoir se plonger au plus près de la réalité sur le terrain. Et donc il a rencontré ces personnes et il s'est interrogé sur le rapport des habitants et des habitantes à la politique jusque dans les choix de vote. Et donc dans cet entretien vous entendrez tout d'abord un peu la méthodologie, le pourquoi du comment de faire une recherche, de faire une thèse puisque c'est un doctorant. Le pourquoi de ce sujet, de cette zone géographique, et enfin les résultats qu'il a obtenus lors de ces rencontres. C'est tout à fait passionnant.
Les 30 juin et 7 juillet dernier, et suite à la dissolution décidée par le président de la République, Emmanuel Macron, avaient lieu les élections législatives anticipées. Les résultats nationaux ont été particulièrement scrutés, observant une forte montée de l'extrême droite en vote et en sièges obtenus. Dans le Pas-de-Calais, cette montée de l'extrême droite s'observe depuis le début des années 2000 et ces élections ont vu le Rassemblement national l'emporter dans 10 circonscriptions sur les 12 que compte le Pas-de-Calais. Comment appréhender ces résultats? Comment les comprendre? Pour en parler, Micro-Rebelles a interrogé Pierre Vadelot. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lille et mène actuellement une thèse portant sur le rapport à la politique des classes populaires du bassin minier et en particulier à Lens. Dit autrement, pour qui votent ou non les Lensois et Lensoises. Bonjour Pierre Vadelot, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous pour l'invitation.
Donc depuis 2019, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Lille. Et avant d'en dire plus donc sur votre sujet de recherche, peut-être est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le travail de thèse, sur le métier en lui-même, et en gros à quoi ça ressemble au quotidien en fait d'être doctorant et de faire une thèse?
Alors, ça ressemble à plusieurs choses, et c'est une activité assez paradoxale dans la mesure où elle est à la fois assez monotâche, avec en gros deux grands piliers qui est faire de la recherche sur lequel on reviendra après et donner des enseignements. Ça dépend des universités, mais dans le cadre de ma thèse à moi, j'ai assez tôt commencé à donner des enseignements. Donc En ce sens, on travaille sur un sujet de thèse que l'on a pu choisir ou qui nous a été imposé selon les universités. Et on donne des cours en même temps, souvent dès la deuxième année. Et donc, c'est un travail diversifié dans la mesure où les méthodes d'enquête, on pourra revenir dessus, mais peuvent être très variées. Les objets sont très variés et donc on est amené à faire des choses très différentes. Et en même temps, c'est un métier assez monotâche dans la mesure où on a un sujet de thèse qui va nous accompagner pendant 3, 4, 5, parfois un peu plus longtemps, et dont à la fin, on a pour ambition d'être spécialisé, en tout cas spécialiste, et, mais qui entraîne voilà, une routine assez, assez exigeante dans la mesure où la spécificité du travail de thèse, c'est qu'on n'a pas directement de patron, ou on a assez peu de comptes à rendre, si ce n'est à nos directeurs de thèse, et donc un cadre assez libre, et ça demande à chacun, à chacune, à tous les doctorants de s'imposer ce cadre-là pour réussir à maintenir voilà, des horaires et un cadre de travail régulier.
Et je reste un peu sur vous encore là, plutôt donc toujours personnellement, encore quelques minutes. Hein. Donc vous travaillez sur le rapport à la politique des classes populaires du bassin minier et en particulier à Lens. Et ça m'amène déjà à une première question, c'est comment en êtes-vous en fait venu à travailler sur ce sujet-là et quel est un peu votre rapport, vous, au bassin minier et à Lens, vous a amené à travailler là-dessus en fait?
Alors, dans le cadre de mon premier travail de master, notamment en master 2, j'avais déjà commencé à travailler sur la question des classes populaires. Et donc, j'avais fait un mémoire, mais qui portait plutôt sur les classes populaires urbaines. Donc, c'était à Roubaix. Et puis, ça faisait un moment que cette question de la politisation des classes populaires m'intéressait. Et à l'Université de Lille a été monté un sujet de thèse sur la question du bassin minier. Donc, ce n'est pas moi directement qui ai décidé de travailler là-dessus, mais c'est un sujet qui m'a intéressé à plein de niveaux, à la fois parce que c'est un territoire qui est en train de se transformer politiquement, on reviendra dessus, mais qui est voilà, porteur d'une histoire très spécifique, très particulière, qui est aussi un territoire en mutation sociale, économique. Bref, c'est un territoire qui bouge à plein de niveaux. Et j'étais vraiment très intéressé d'essayer d'aller comprendre ce qui s'y jouait, notamment parce que c'est ce que j'ai observé aussi dans ma thèse, c'est que c'est un territoire qui est beaucoup parlé par d'autres gens. Et voilà, j'avais pour ambition d'essayer d'aller récolter le plus proche du terrain, en fait, ce qui peut se dire ici, ce qui peut se vivre ici. Et puis mon rapport directement au bassin minier, c'est un territoire que je connaissais mais assez peu. Je n'en viens pas, je n'ai pas grandi directement là. Et pour les besoins de ma thèse, je suis donc venu vivre à Lens pendant un peu plus de... Donc j'ai fait 2 séjours en tout, en vivant là un peu plus de 2 ans en tout, pour justement ne pas tomber dans les écueils un peu journalistiques qui peuvent être de venir à Lens une journée, faire un article, et ce qui donne souvent des visions très faussées de ce qu'est le territoire, de ce qu'est la ville. Et voilà, je me rappelle de plusieurs articles que j'avais pu lire, on sent que des journalistes sont venus une journée, un mercredi, quand il faisait un peu gris, et repartent avec une image, voilà, souvent assez misérabiliste, assez triste du territoire. Et le fait d'avoir pu y vivre si longtemps, de m'être imprégné de sa culture, de sa population, ça m'a, je pense, évité, même si on n'est jamais à l'abri de retomber dans d'autres écueils, mais de tomber dans ces échos-là de vision très, très court-termiste, en fait, avec une vision qui reste très superficielle.
Ouais, justement, vous parlez de passer du temps en fait aussi sur le territoire pour les biens de la thèse, donc pour enquêter aussi, pour récolter de l'information. Et là, votre recherche, pour en parler peut-être plus directement, en fait, ça vise à travailler à la fois sur la question des classes populaires, donc du bassin minier et du territoire de Lens, mais aussi ces questions de politisation notamment. Et déjà, peut-être une première question là-dessus, c'est déjà, ça veut dire quoi en fait ces différents termes, politisation, classe populaire aussi?
Alors, la notion de politisation, c'est une notion de science politique qui vise en fait à essayer de comprendre comment est-ce que des individus sont traversés par un certain nombre de phénomènes qui peuvent être de leur fait, donc où est-ce qu'ils vont rester, avec qui est-ce qu'ils vont discuter, quel est leur travail, etc. Mais aussi des phénomènes plus larges qui peuvent relever voilà, de l'évolution du marché de l'emploi, le champ politique. Bref, comment est-ce que tous ces phénomènes traversent les individus pour produire chez eux des représentations politiques? Alors par politique, on entend trop souvent une vision très restreinte qui serait de dire la politisation, c'est le fait de se positionner sur un axe gauche-droite, ce qui a pendant longtemps été une des définitions de la politisation, une vision très restreinte. Donc avec cette définition, quelqu'un de politisé, ce serait quelqu'un qui connaît les acteurs et les actrices du champ politique, donc savoir qui sont les élus, qui c'est le président, le premier ministre, etc., qui est capable de pouvoir lui-même se positionner sur l'axe gauche-droite, qui est l'axe historique qui permet souvent de mesurer un certain degré de politisation, qui est capable de mobiliser un certain nombre de concepts politiques, libéralisme, communisme, enfin bref. Et donc on a eu pendant très longtemps cette vision assez restreinte de ce qu'était la politisation, qui avait pour écueil de mettre de côté toute une partie de la population qui ne maîtrisait pas ces codes-là. Mais pour autant, on s'est rendu compte, sur les travaux plus récents, à quel point elles étaient elles aussi traversées par des phénomènes politiques et qu'elles avaient des opinions et des représentations sur le monde politique qui passaient simplement par d'autres vecteurs que les vecteurs traditionnels, qui sont le fait d'aller voter, de savoir se positionner, comme on l'a dit. Et donc, de nos jours, on a une vision un peu plus élargie de ce que c'est que la politisation, avec une idée assez simple, mais qui a des formes de politisation ordinaire. En fait, tout le monde, de son parcours, de sa trajectoire, de qui il représente, a des opinions sur ce qu'il se passe dans la société. Et donc, à la fois, on élargit la façon de les exprimer. On n'est pas obligé de simplement connaître des acteurs et des actrices politiques pour être politisés, mais on peut avoir voilà, des sentiments de colère, d'injustice, qu'est-ce qui nous intéresse, mais qu'est-ce qui nous rebute, à la fois sur le champ politique, mais aussi de façon un peu plus large. Ça peut être notre rapport à nos associations de quartier, ça peut être notre rapport à notre... à notre habitation, à notre voisinage. Bref, l'idée est de dire que pour saisir toutes les formes de politique et de politisation qu'il existe, il faut en avoir une vision élargie et que ça peut prendre plein de formes, allant d'aller voter, de connaître des acteurs et des actrices politiques, à se sentir en colère quand on voit une injustice, se sentir habitant d'un territoire. Bref, ça peut prendre toutes ces formes-là et c'est l'idée de ma thèse de s'y intéresser.
L'idée, c'est justement de ne pas se focaliser sur cet axe gauche-droite, en tout cas de ne pas restreindre la recherche à ça. Et là, pour cette recherche, l'idée, c'est aussi de se focaliser plus sur les classes populaires. Et qu'est-ce que vous entendez justement par classe populaire, pour le coup ?
Oui, alors ça fait justement le lien avec la question d'avant, c'est que notamment avec une recherche portant sur les classes populaires, si on reste dans une vision trop restrictive de ce qu'on entend par la politisation, on tombe très vite dans l'idée que ces classes populaires, on va les définir juste après, mais ne seraient pas politisées. Bon, c'est des choses que j'ai vues, des choses très différentes que j'ai pu observer sur le terrain, mais qui sont assez bien identifiées par la science politique depuis très longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle les classes populaires ? Alors, pour faire une toute petite histoire de cette notion, pendant très longtemps, on a longtemps parlé, et le bassin minier en est l'une des incarnations, plutôt de la classe ouvrière. L'idée était qu'il y avait, alors dans une vision assez marxiste du monde, mais la bourgeoisie, le prolétariat et la classe ouvrière. Derrière cette notion de classe ouvrière, on voit bien qu'elle était au singulier, la classe ouvrière, parce qu'on portait et qu'on adossait à cette population un certain nombre de caractéristiques communes qui étaient liées notamment au fait de travailler la plupart du temps dans de la grande industrie, donc dans des collectifs de travail très grands, avec des styles de vie très proches, des endroits, des localisations très proches, ça peut être dans différentes villes mais souvent regroupées dans les mêmes quartiers, avec, voilà, que ça soit dans la sidérurgie, dans les mines, dans d'autres grandes industries, il y avait des points communs dans ces conditions de vie et dans les trajectoires de cette classe ouvrière. Au fur et à mesure, cette classe ouvrière a évolué. On le voit bien que à Lens, par exemple, dans le bassin minier, à quel point la fermeture des mines et de d'autres grandes industries a amené le marché du travail à évoluer, notamment se fragmenter. On pourra revenir dessus parce que ça a un impact très fort sur la politisation, mais on est passé de grosses industries à des plus petits collectifs de travail et on est passé de la classe ouvrière aux classes populaires, avec une double idée, à la fois de dire qu'il y a cette fragmentation, en tout cas cette, une évolution du profil de ces classes populaires, avec une multiplication d'emplois précaires, avec tous les métiers du care qui sont arrivés, des métiers de service. Bref, on a de plus en plus de métiers qui sont apparus suite à l'explosion de cette classe ouvrière. Pour autant, l'idée de les garder dans la même catégorie, c'est de dire que toutes ces populations-là, de quelqu'un qui est aide à domicile à Lens ou quelqu'un qui travaille dans la grande industrie en banlieue parisienne, il y a des caractéristiques communes. Et c'est ces caractéristiques communes qui font qu'on parle des classes populaires. Alors, il faut bien avoir en compte, on l'a dit, cet aspect pluriel. Il y a plein de fractions des classes populaires. On peut parler de petites classes populaires, de classes populaires stabilisées, de classes populaires en ascension sociale. Bref, il y a différentes caractéristiques qui permettent de saisir encore plus finement de quoi on parle, mais elles ont un certain nombre de caractéristiques communes. Le fait d'avoir des emplois qui sont assez peu rémunérés, le fait d'avoir, par exemple, y a quelqu'un qui avait travaillé là-dessus, qui n'ont pas une gestion de leur temps, avec des horaires imposés, le fait de devoir pointer. Et aussi, ce qu'on entend par classe populaire, c'est un Olivier Schwartz à l'ancienne, qui l'avait, et Richard Hogarth, bref, deux sociologues, qui l'avaient identifié. Il y a aussi une dimension culturelle qui change de plus en plus, avec lequel moi j'ai un peu plus de mal, mais aussi de dire qu'au-delà des conditions de vie, ces classes populaires partagent un certain nombre de caractéristiques, de pratiques culturelles communes. Et voilà, c'est cette jonction entre un certain niveau de vie et des pratiques culturelles qui permettent de faire tenir ensemble ce conglomérat, cette grande catégorie des classes populaires.
Donc là, on a un peu effectivement cette idée donc, de classe populaire, si j'entends bien, quand même assez éclatée aussi, où finalement il y a plein de différentes formes, en fait, soit en termes de revenus, en termes de ressources culturelles, sociales, etc. etc. Et moi, la question qui m'amène, c'est comment on accède en fait à ces personnes, comment on les questionne sur cette question de la politisation.
Pour saisir la question de la politisation, comme on l'a dit avant, étant donné que sa définition est assez plurielle et que son expression est assez peut prendre plein de formes très différentes, on l'a dit, ça peut aller de voter, mais ça peut aller de manifester, adhérer à une association. Et je pense que la science politique, pour pouvoir saisir cette multiplicité des formes de politisation, doit elle aussi adapter ses méthodes et donc multiplier ses méthodes. Donc, moi, j'ai recours à la méthode un peu canonique en sciences politiques dans une enquête dite ethnographique, en étant allé vivre à Lens, etc., c'est l'entretien. Alors, comment ça se passe un entretien sociologique ? C'est on rencontre une personne et l'objectif, c'est avant tout de revenir sur la trajectoire de la personne. Y a toute une partie de la sociologie française qui accorde une importance toute particulière à la trajectoire, plus que même un certain nombre de questions qu'on pourrait poser par la suite. On reviendra sur les problèmes que peuvent poser un certain nombre de questions. Mais voilà, c'est de savoir où est-ce que les personnes ont grandi, quel métier, quelles études elles ont faites, si elles ont fait des études ou pas, quels étaient le métier de leurs parents, est-ce qu'ils sont en trajectoire dite ascendante, donc est-ce qu'ils s'élèvent socialement, on va dire, par rapport à leurs parents ou non. Donc il y a cette question de la trajectoire qui est très importante. Ensuite, pendant un entretien, on va aussi avoir, selon ce qu'on cherche, un certain nombre de questions. Moi, je peux avoir des questions, par exemple, sur les pratiques électorales, mais aussi, par exemple, sur les représentations du territoire. Comment est-ce qu'on pense le bassin minier ? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle valeur est-ce que vous y associez ? Et une nouvelle fois, la question du vote, elle reste assez secondaire, ou en tout cas, elle arrive très tard dans les entretiens, parce que, à la fois, c'est pas toujours ce qui est le plus représentatif de toute la trajectoire d'une personne. C'est une façon d'incarner, mais il y en a d'autres dans la vie de quelqu'un, plein d'opinions qui s'incarnent à un moment donné dans une pratique électorale, mais qui n'est pas toujours représentative de la complexité qu'ont les gens. Et on pourra revenir là-dessus, mais sur une même pratique électorale, on peut avoir des profils, des trajectoires très, très différentes. Et donc, l'entretien, il permet d'avoir ces caractéristiques, cette trajectoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ethnographie. Donc, c'est le fait d'aller vivre avec les gens. Alors, vivre avec les gens, pas directement, mais de passer des moments de vie avec eux, au-delà des entretiens. Parce que l'un des problèmes de la question des entretiens, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler en sociologie l'imposition de problématiques. Ça veut dire qu'on va poser des questions à des individus qui ne se les posent pas, ou en tout cas pas dans ces termes. Et si on va demander à quelqu'un, on l'a revu avant à quel point la notion de politisation peut être floue, si on demande à quelqu'un, voilà, comment est-ce que vous êtes politisé, comment vous décririez votre politisation, c'est des questions dont la plupart des gens, classe populaire ou non au passage, mais c'est notamment encore plus prégnant chez les classes populaires, ne se posent pas du tout. Et donc là, on obtient en fait des éléments de réponse qui sont extrêmement... on peut dire critiquable ou en tout cas assez superficiel dans la mesure où on impose ces questions à des gens. Et ça, j'ai bien pu sentir la grande différence lorsque on fait des entretiens avec les gens et lorsqu'on reste avec eux, on voit bien que les sujets auxquels souvent nous on s'intéresse ne sont pas ceux que les gens mobilisent d'eux-mêmes.
Comment t'as adapté en fait ton travail, en tout cas les questions que t'avais toi déjà un petit peu en tête au préalable, comment tu l'as adapté aux personnes et à leurs réponses en fait?
L'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir le moins de prénotions, ou en tout cas le moins d'a priori possible dès le début. Donc en fait, moi, j'avais vraiment un terrain de recherche qui était Lens. Je me suis ensuite posé la question de comment est-ce qu'on resserre un peu l'étau, étant donné que j'allais difficilement pouvoir interroger l'ensemble de la population lensoise. Mais j'avais quelques représentations, notamment médiatiques, dont je me suis très rapidement rendu compte à quel point elles pouvaient être fausses. Et puis quelques pistes de recherche, en tout cas des éléments qui m'intéressaient, mais auxquels je n'avais pas du tout de réponse. Et il y a beaucoup de fois sur le terrain, et puis c'est ce qu'on appelle la recherche inductive, c'est aussi se laisser porter par le terrain, de voir ce que le terrain a à nous dire. Et il y a beaucoup de fois, notamment lors de mes premiers entretiens, où je me suis rendu compte que mes grilles de lecture n'étaient pas les bonnes, et ça m'a amené à me plonger, par exemple, on en parlait, mais l'une des spécificités du bassin minier, comme tout territoire, ça a une histoire, mais c'est une histoire qui est récente, qui est encore très forte, qui est encore extrêmement mobilisée, qui est cette histoire minière. Et voilà, moi, c'est une littérature dans laquelle j'ai dû me plonger pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire cette époque-là, qui y avait participé, comment, à quoi ça ressemblait vraiment. Et par exemple, ça, c'est quelque chose, j'étais pas persuadé avant de partir sur le terrain que connaître cette histoire minière allait être indispensable pour comprendre ce territoire, ce qui montra bien à quel point les prénotions et les connaissances que j'avais pouvaient être fausses. Et donc, c'est aussi le terrain qui m'a amené à pouvoir me questionner plus amplement sur un certain nombre de ces questions.
Et justement, si on en vient davantage aux résultats, ou en tout cas aux données récoltées, même si c'est encore un peu partiel, parce que là, c'est le moment de l'écriture aussi de la thèse, donc il y a encore, j'imagine, des choses qui se passent dans la tête. Mais qu'est-ce qui a été récolté, en fait, comme information? Je pense notamment sur cet aspect un peu poétisation. C'est quoi les différentes manières qu'ont les gens dans le bassin minier, ou en tout cas à Lens, de se politiser? C'est quoi les différents espaces? Et c'est de quelle forme ça prend, en fait, cette politisation, pour les personnes qui ont été interrogées, pour le coup, ou en tout cas rencontrées dans le cadre de cette recherche?
Et bien alors, c'est un peu tout le nœud. De fait, il y a énormément de vecteurs de politisation à Lens comme ailleurs. Et le travail de recherche n'est pas tant de réussir à être exhaustif, parce que les individus sont tellement complexes, sont tellement multiples, comprendre l'ensemble de leur trajectoire, de leur goût, de leur dégoût, on le disait, de ce qui rend, ce qui peut les mettre en colère, ce qui leur crée de l'injustice, etc. C'est un travail qui est titanesque et qui est en fait infaisable. Du coup, l'idée en tant que chercheur était plutôt de prendre un prisme, une forme de questionnement, et d'aller voir comment est-ce quelque chose qui me semblait important. Et pour moi, ça a été la question des sociabilités. L'idée qui est assez courante, qui est assez récente, mais maintenant assez répandue en sciences politiques, qui est de dire, en fait, on ne se politise jamais seul. Ce qui crée de la politisation, c'est le groupe, c'est les sociabilités. Et ce qui a souvent tendance à oublier, par exemple, quand on voit des simples instituts de sondage ou des résultats électoraux, on voit des gens très atomisés, dont on a quelques caractéristiques, mais dont on n'a aucune idée de comment se construit leur politisation. On sait qu'ils ont voté pour ça, qu'ils font tel métier, mais ça a tendance à oublier que les individus, ils évoluent dans un monde social, et que c'est ce monde social qui va, entre autres, les forger. Et du coup, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question des sociabilités. Donc, c'est l'idée à la fois de avec qui on traîne, et surtout, où est-ce qu'on traîne. Et donc, c'était justement, en venant vivre à Lens, d'essayer de rester avec des gens, d'essayer de voir quels étaient les lieux dans lesquels ils aimaient aller. On a par exemple aussi travaillé avec un photographe où les gens essayaient de nous amener sur les endroits qui sont importants pour eux. Et on voyait bien que c'est à la fois les personnes qu'on va côtoyer dans ces endroits et les endroits dans lesquels on va qui vont avoir un impact assez fort sur la politisation, qui n'est pas le seul impact, mais qui est celui sur lequel moi je me suis en partie concentré.
C'est pas l'enjeu principal de la thèse, mais pour en venir plus sur la politisation, en tout cas politique, mais peut-être plus au sens partisan, là, si on reprend un peu historiquement, Lens, c'est quand même un territoire qui est particulièrement à gauche, que ce soit au niveau notamment municipal, mais au législatif aussi, depuis une paire de décennies. Mais on voit quand même depuis début des années 2000 un poids de plus en plus important pris par l'extrême droite, Front National, Rassemblement National. Et on entend beaucoup dans les médias cet aspect un peu, finalement, l'électorat de gauche aurait basculé vers la droite, voire l'extrême droite. Est-ce que cette idée un peu martelée aussi beaucoup dans les médias, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes d'accord?
Et alors, non, à plusieurs niveaux. Mais en fait, c'est une théorie qui date déjà un petit peu maintenant, qui émerge au milieu des années 90, qui est cette idée de ce qu'on appelait le gaucho-lepénisme. En gros, qui est l'idée que l'extrême droite se nourrit d'anciens électeurs de gauche déçus. Et il est évident, on peut dire quelques mots là-dessus, que à ce titre-là, si on a une lecture très rapide de l'évolution du paysage politique du bassin minier, bon, bah, on dit que c'est l'incarnation typique, idéale typique, même on dirait archétypale, de cette théorie du gaucho-lepénisme, parce que Et vous l'avez dit, la spécificité du bassin minier, c'est que ça a été un territoire hégémoniquement géré par la gauche pendant plus d'un siècle. Donc par une gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une vie politique complètement pacifiée, au contraire, c'était des luttes très rudes entre les socialistes et les communistes, qui avaient des réseaux de sociabilité justement très différents, qui avaient des profils de militants, d'électeurs, électrices très différents, qui n'ont pas conquéri les mêmes mairies, etc. Mais bref, c'était les deux forces qui géraient de façon assez hégémonique le bassin minier. Avec une spécificité qui revient, on va revenir dessus juste après, c'est que la droite est très peu présente dans le bassin minier. La droite dite traditionnelle, on va dire LR, UMP, on a Fillon qui fait 10% au lieu de, à Lens par exemple, au lieu de 20% en France, des scores très bas aussi pour Pécresse, mais c'était déjà le cas pour Nicolas Sarkozy. Et souvent, l'une des hypothèses qui avait été émise pour contrer cette idée du gaucho-lepénisme, c'est de dire en fait, c'est pas les classes populaires de gauche qui se sont tournées vers l'extrême droite, mais les classes populaires qui étaient de droite, qui a toujours existé, qui ont toujours existé, souvent entre 15, 20, voire 30% des ouvriers, même dans les années 70, votaient à droite, souvent assez proches de l'Église catholique, etc. Bref, c'est ces électeurs-là qui se sont tournés vers l'extrême droite. Ce qui est un phénomène qui s'observe à beaucoup d'endroits, mais qui est difficilement observable dans le bassin minier, dans la mesure où il n'y avait pas 30% d'ouvriers qui votaient à droite. Par contre, ce que j'ai pu voir qui est très très fort, c'est que il y a un renouvellement générationnel qui profite à l'extrême droite dans le bassin minier et à Lens. Si on regarde, et j'avais fait des analyses par bureau de vote, et j'avais fait justement sur l'idée aussi des méthodes utilisées, j'ai aussi fait un questionnaire sorti des urnes. Donc c'est l'idée de distribuer un questionnaire à la sortie d'un bureau de vote avec un certain nombre de questions pour essayer d'identifier un peu les profils de certaines personnes. Et l'un des éléments qui est ressorti, c'est que Marine Le Pen ou le Front National, le Rassemblement National, fait ses meilleurs scores chez les 18-35 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une trajectoire que j'ai pu beaucoup observer, c'est des grands-parents qui sont communistes ou socialistes, des parents moins politisés, abstentionnistes, et des petits-enfants qui votent pour le Front National. Pourquoi? Pour moi, il y a trois éléments assez importants. À la fois, ces jeunes, ils ont grandi dans un territoire dans lequel, pour eux, la gauche représente une forme de défaite. C'est des gens qui sont capables de dire la gauche a été au pouvoir dans le bassin minier, elle a eu les mairies, elle a eu le département, les communes, etc. Elle a été au pouvoir même nationalement et ça n'a pas empêché les mines de fermer, les usines de partir, etc. Donc on a une vision extrêmement critique et défaitiste de la gauche. C'est aussi des jeunes qui ont grandi dans un monde dans lequel le Front National a toujours été normalisé, maintenant Rassemblement National, et on le voit chez des électeurs qui ont 20, 22, 23, jusque 30 ans. L'histoire du Front National, Jean-Marie Le Pen, c'est même assez lointain. Alors si on essaye, moi j'avais avec plusieurs électeurs et électrices discuté de voir qu'est-ce qu'ils pensaient de la période de Jean-Marie Le Pen pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est des éléments qui sont très très loin. Et donc, on a chez ces jeunes électeurs le fait que le Front National est normalisé, une gauche qui est vue comme un élément assez défaitiste, et donc une volonté de changer le monde qui est complètement absente. Et ces nouveaux profils, ces jeunes-là, eux, sont très fortement amenés à voter pour l'extrême droite, là où les plus de 65 ans, au contraire, sont ceux qui votent le moins pour l'extrême droite et le plus encore à gauche. Donc, en fait, ça permet de bien nuancer cette idée de basculement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, et on s'interrompt quelques instants pour une pause musicale.
Sobre cuatro tiempos me encontré rimando cuando la poesía me nacía urgente entre los dedos. De vez en cuando, en lugar de hacerme daño, me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba porque el caos de la noche se comía mis palabras, esperando desnuda la madrugada para que el sol me encontrara con versos en la mirada. Enamorada de mi pequeña morada, que aunque no tuviera nada me parecía suficiente. Me devoraba mi libreta dorada y salía a la calle con poemas en los dientes. Los labios rojos y violeta las ojeras, dormía poco pero soñaba despierta. Aquella soledad, mi fiel compañera, me enseñó a llorar de otra manera. A veces necesito un poquito de silencio, a veces necesito un poquito de soledad, a veces necesito olvidarme del tiempo, a veces necesito volverlo a recordar. No sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. No leí el futuro en una bola
cristal. A luz de la luna aún me duelen cicatrices, pero el dolor me ha sabido enseñar. Abrí las alas para ser libre de mi capullo y me convertí en una mariposa. Les compartí todo lo que escribí, lo convertí en canción y otras cosas prosa. Le pedí al mar que me curara las heridas para vivir cada día como el primero. Le pedí al alma que buscara sus raíces para ir perdiendo miedo al vuelo. Y hoy estoy aquí con tanta historia que contar, tanta memoria por sanar. Sigo el camino que me marca el corazón, porque mi hogar viaja conmigo a donde voy. A veces necesito un poquito de silencio, a veces necesito un poquito de soledad, a veces necesito olvidarme del tiempo. A veces necesito volverlo a recordar. No sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. No leí el futuro en una bola de cristal. Necesito un poquito de silencio, a veces necesito un poquito de soledad.
On vient d'entendre AVSS de Rebecca Lane et on continue avec l'entretien du sociologue doctorant en sciences politiques Pierre Vadelot, qui est interrogé par Pierre de Micro-Rebelle au sujet donc du vote et des choix politiques des habitants et habitantes de Lens et du bassin minier.
Moi, il y a quand même aussi quelque chose qui s'observe au niveau local, notamment, c'est la déconnexion entre les élections municipales, mais aussi d'une certaine manière, je sais pas, départementale notamment, déconnexion avec ce qui se passe aux législatives, aux présidentielles. Comment en fait on peut observer, comment on peut analyser cette différence où, comme là je voyais aux dernières législatives, c'était 60% à peu près, il me semble, sur Lens vers le Rassemblement National, alors que au municipal, c'est quand même la gauche qui conserve la mairie, et c'est pas que à Lens, hein, c'est dans d'autres territoires du bassin minier. Donc comment on comprend en fait cette déconnexion aussi?
Ouais, ça c'est l'un des éléments, l'un des paradoxes qui est, je trouve, extrêmement intéressant avec le bassin minier, c'est que, on l'a dit médiatiquement souvent, on le représente comme un territoire complètement acquis à l'extrême droite, alors même que sur, alors il y a plusieurs découpages, mais si on prend le découpage de la mission du bassin unis, sur les 151 mairies, ou 250, ça sera à vérifier, mairies du bassin minier, il n'y a que deux mairies qui sont acquises à l'extrême droite, qui sont Bruay-la-Buissière et Hénin-Beaumont, deux mairies qui en plus ont une histoire très particulière du fait que les anciens élus socialistes ont été fourvoyés dans un certain nombre d'affaires. Et donc on a ce décalage très fort entre un territoire qui reste hégémoniquement quasiment géré par la gauche à l'échelon local, aussi cantonal, et pour autant, aux législatives ou aux présidentielles, on a le Front National qui obtient des scores très élevés. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Il y a deux éléments. Premièrement, on a une participation électorale et donc une abstention qui est quand même très différente. Lors des élections présidentielles, c'est globalement l'élection la plus participative, en tout cas là où il y a le plus de gens qui votent. Les élections locales, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a souvent plus d'abstention. Donc on voit bien que l'une des faiblesses du Front National dans le territoire, c'est de ne pas réussir à mobiliser son électorat au présidentiel à toutes les élections. Premièrement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'idée aussi qu'on aurait des électeurs du Front National complètement acquis à la cause, qui seraient capables de, qui maîtrisent les enjeux du parti, qui voteraient pour le Front National à toutes les élections, en fait, ça représente qu'une toute petite partie des électeurs. Deuxième élément qui est important, c'est que je le disais, sur quelle grille de lecture est-ce qu'on applique, nous, ou en tout cas un certain nombre de personnes, pourraient voir de l'incohérence dans le fait qu'il y ait des gens, moi j'ai pu rencontrer des électeurs et des électrices qui votent pour la gauche aux élections municipales et pour Marine Le Pen aux élections présidentielles, et en fait, pour elles, on pourra revenir dessus, mais dans un certain nombre de leurs représentations du monde social, c'est une pratique électorale qui est complètement cohérente. Et c'est là où on voit bien qu'en tant que politiste, ou en tout cas en tant que personne particulièrement politisée dans le sens restreint, on l'a dit, on n'a pas toujours les bonnes grilles de lecture, parce que pour nous, ça nous paraîtrait incohérent.
Comment on arrive à remettre de la cohérence là-dedans, alors ?
Bah, c'est justement tout le travail du chercheur de ne pas tomber dans des grilles de lecture trop simples. Et du coup, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a l'idée que la politisation de ces individus, comme celle de tout le monde, est complexe et elle est très différente selon les sphères dans lesquelles ils évoluent. Ça, c'est un élément assez important de mon travail de recherche. Je prends un exemple assez parlant. Une personne que j'avais pu rencontrer en faisant une balade en porte-à-porte, la personne tient un certain nombre de discours, par exemple, très critiques de la cistana. Et c'est une personne que j'ai pu rencontrer ensuite en entretien, et cette personne-là ne tenait plus du tout le même discours sur la question de la cistana. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit bien que les représentations du monde social, donc on va dire la façon dont on est politisé, dont on pense le monde, comment est-ce qu'on pense qu'il est géré, de bonne ou de mauvaise façon, c'est extrêmement conditionné aux espaces dans lesquels on évolue, et que donc les différents échelons d'élection mobilisent différentes représentations. Par exemple, le fait qu'on accorde une grande importance dans le bassin minier au fait de venir du coin, qu'on a une importance toute particulière dans cette histoire de minière, dans ce territoire, ça s'incarne localement par le vote, notamment pour le maire en place, qui est un maire qui vient du territoire. Aux élections nationales, on a l'impression que celle qui représente les valeurs de ce territoire, c'est Marine Le Pen. Et donc c'est simplement qu'on a des lectures très différentes de ce qu'est-ce que veut dire représenter ce territoire-là, et que ça peut prendre politiquement des choses très différentes, alors qu'en fait, pour les individus, il y a une cohérence derrière ces deux pratiques.
Vous l'avez fait aussi, cette analyse, où finalement, on ne prend pas quartier par quartier, mais on prend plutôt par bureau de vote. Donc déjà, peut-être, on réexpliquera aussi ce qu'on entend par bureau de vote, l'espace qui est concerné. Et après, la question, c'est, finalement, est-ce qu'on voit une vraie diversité, des vraies différences d'un bureau de vote à un autre sur un même territoire comme Lens, avec éventuellement des espaces avec des taux de participation plus élevés, un taux d'abstention moins important. Est-ce qu'on peut faire des distinctions et lesquelles ?
Eh bien, alors, c'est un peu toute la difficulté de travailler dans le bassin minier. C'est que, contrairement à d'autres territoires, le bassin minier a une population relativement homogène. Le bassin minier comme Lens. Par exemple, dans des grandes métropoles, on peut penser à Lille, mais à d'autres, on est assez habitué d'avoir, par exemple, des quartiers particulièrement paupérisés face à des centres-villes beaucoup plus riches, et on a des catégories sociales très différentes qui se côtoient au sein de la même ville. La spécificité du bassin minier, liée notamment à son histoire, mais pas que, c'est qu'on a une population assez homogène. Donc on a une surreprésentation des classes populaires dans leur ensemble. Voilà, c'est un territoire qui est paupérisé à plein de niveaux. Il y a un taux de chômage plus élevé, un revenu médian qui est plus bas que dans la moyenne du territoire. Mais on n'a pas ou assez peu de grandes différences sociales entre les différents quartiers. Il existe des petites choses, et c'est là où on le voit, par exemple. Moi, je peux voir que les bureaux de vote qui votent le plus à gauche, c'est ceux où il y a le plus de retraités, par exemple, ou d'anciens ouvriers. Mais il est assez dur, et c'est ce que j'ai pu voir avec le questionnaire sorti des urnes notamment, mais aussi avec un certain nombre d'entretiens, il est assez dur d'appliquer un certain nombre de critères qu'on connaît en sciences politiques pour permettre d'expliquer la distinction entre les électeurs de droite ou d'extrême droite et les électeurs de gauche. En fait, c'est ce que j'appelle des petites différences sociales pour des grandes différences électorales, et que c'est justement en affinant nos grilles de recherche qu'on peut comprendre. Et par exemple, moi j'avais une question dans le questionnaire sorti des urnes sur à quel point les gens se sentent fiers de vivre dans leur territoire. Bon bah là on voyait que les gens qui votaient pour l'extrême droite se sentent moins fiers de vivre dans le bassin minier que les gens qui votent à gauche. L'un des éléments qui a été très marquant, c'est ce qui m'a amené à travailler sur cette question des sociabilités, du vote, en gros sur l'impact du collectif sur la politisation, c'est qu'une très très grosse majorité, alors on va dire entre 80 et 90% des électeurs du Front National n'étaient pas membres d'associations, inversement pour les électeurs et les électrices de gauche. Donc on voit bien que moi, l'un des éléments que je vais essayer de creuser dans ma thèse, et que j'ai déjà commencé à creuser, c'est cette question de l'insertion sociale. Le fait d'être dans un tissu associatif, et donc ça amène plein de choses par la suite, est l'un des éléments qui me semble important pour comprendre cette différence entre les électeurs de l'extrême droite ou de la gauche dans le bassin minier. Là où, par exemple, les facteurs communs... Alors, par exemple, au niveau national, c'est souvent le niveau de diplôme qui est extrêmement significatif. Plus on est diplômé, plus on vote à gauche. Moins on est diplômé, plus on peut voter pour l'extrême droite, pour le faire rapidement. Et bah, ça, c'est des choses qu'il est assez difficile à saisir à Lens, parce que le niveau de diplôme est assez homogène. On a entre 2 et 4% de cadres, par exemple, à Lens, et on a 30% d'ouvriers et 30% d'employés. Donc on voit bien que ça nécessite d'utiliser d'autres grilles de lecture que celles qu'on utilise habituellement, du fait de cette population relativement homogène.
Il me semble aussi, dans ces questionnaires, ou peut-être en par ailleurs, il y avait aussi l'enjeu de la discrimination vécue par les personnes. À quel point ça, c'est un élément important aussi dans le choix final, finalement, lors d'élections municipales comme présidentielles, ou en tout cas peut-être dans le rapport aussi à la sociabilité des personnes. C'est quoi l'importance de la question de la discrimination vécue pour les personnes ?
Ouais, alors ça, justement, au-delà des caractéristiques sociales, les deux autres éléments extrêmement structurants pour comprendre les profils différents entre les électeurs et les électrices, c'est que quasiment 100%, plus de 90% des électeurs et des électrices du Front National mettent la question de l'immigration comme premier enjeu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant commence à être assez bien renseigné, même si pendant trop longtemps ça a été sous-estimé, mais le ciment qui permet de tenir une partie de l'électorat frontiste, c'est la question du racisme. Et la question de l'immigration, de lutte contre l'immigration, un rejet de populations racisées, une islamophobie qui est structurante. Ça, c'est un élément qu'on retrouve chez une très grande partie des électeurs du Front National. Pour autant, c'est aussi des éléments qu'on peut retrouver parfois à gauche, et donc ça ne suffit pas toujours à comprendre. Sur la question des discriminations, c'est l'autre facteur le plus explicatif pour les électeurs et les électrices de gauche. J'avais une question dans mon questionnaire sur « Avez-vous l'impression d'avoir déjà subi une discrimination, qu'elle soit de genre, de race ou de classe ?» Alors, du fait de la question assez homogène, la discrimination de classe n'est pas toujours centrale ici, mais si on avait l'impression d'avoir subi une discrimination, notamment raciale, on votait à gauche. Donc là aussi, c'est extrêmement important, et parfois plus que le niveau religieux. En fait, ce que j'avais pu observer, c'est que c'était pas tant le fait, par exemple, d'être musulman qui faisait qu'on votait à gauche, que le fait de sentir qu'on avait vécu des discriminations. Donc en fait, et ça se passe des deux côtés. C'est le fait d'être raciste est un prérequis presque au vote frontiste, mais il faut qu'il soit politisé pour qu'il puisse aboutir à un vote pour l'extrême droite. Et inversement, le fait de subir des discriminations est important dans le vote de gauche, c'est pas la seule variable pour le coup, mais c'est important. Et le fait de le politiser, donc de sentir qu'on a subi des discriminations, est là aussi très important pour passer, transformer ce ressenti discriminant à une pratique électorale.
On parle beaucoup des classes populaires, et à raison, parce que c'est le sujet de votre recherche. Et est-ce que vous êtes intéressé aussi aux élites locales, aux cadres et les personnes qu'on peut considérer comme des élites au niveau sur le territoire du bassin minier? Et à la fois, quelles sont ces élites et quels sont leurs rapports politiques aussi?
Ouais, ben, ces élites-là, elles ont justement un rôle très important. On l'a dit, comment est-ce que un vécu quotidien, comment est-ce que soit le fait de sentir qu'on subit des discriminations ou au contraire qu'on peut avoir des représentations racistes du monde, comment est-ce que ça se transforme ensuite en pratique électorale? Et ça, c'est notamment le rôle des petites élites locales. Et ça, c'est un truc qui est très important. On le voit à Lens, mais comme dans d'autres territoires, il y a une évolution. Il y a un sociologue qui s'appelait Élie Guéraud qui avait travaillé sur la ville de Nevers, sur la disparition de la petite élite culturelle. Et ça, c'est aussi un phénomène qu'on observe à Lens. Les élites locales qui restent extrêmement présentes à Lens, ce sont des petites élites économiques. Qu'est-ce qu'on entend par petite élite économique? C'est notamment des petits patrons de petites entreprises, de BTP par exemple, qui eux sont souvent des électeurs de droite historiquement et d'extrême droite parfois, mais qui sont eux très, très éloignés des représentations de gauche du monde social. Et le fait qu'il y ait toute une partie aussi des élites culturelles qui ne vivent plus dans ces territoires, que ce soit à Lens ou dans le bassin minier, on le voit, faudrait avoir les chiffres en tête, mais le Louvre-Lens, ça m'étonnerait que 100% des cadres ou des gens qui travaillent au Louvre-Lens vivent à Lens. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces élites culturelles qui permettaient par l'engagement associatif qui faisait vivre une certaine vie associative dans ces communes-là, soit partie de ces territoires, ça laisse la place à ces élites économiques de droite et qui, elles, jouent un rôle très très fort dans la transformation des représentations politiques en pratiques électorales d'extrême droite. Parce que ces élites locales, au-delà d'être simplement des petites élites, c'est qu'elles sont des figures enviables, des figures de réussite. Et de fait, lorsque les seules figures de réussite que l'on a, ce sont des figures de petits patrons, eh bien ça accentue cette politisation vers la droite et vers l'extrême droite. Et on le voit, lorsque quelqu'un a ouvert une entreprise de BTP à Lens, il n'a aucun intérêt à partir de territoire, il y est très inséré, il a un certain, ce qu'on appelle un capital d'autochtonie en sociologie, mais le fait d'être connu, reconnu sur le territoire, etc. Si cette personne allait vivre à Lens, elle perdrait beaucoup de ce capital-là. Au contraire, quelqu'un qui a, imaginons, un BTS touriste ou une licence en culture, différentes filières-là, elle a beaucoup plus intérêt à partir vivre à Lille, notamment parce qu'il y aura plus d'emplois, et donc ça laisse ce territoire à ces élites économiques qui jouent un rôle très important dans cette transformation des pratiques électorales.
Ça m'amène aussi à une autre question, à nouveau, c'est sur la place des étudiants et étudiantes, où finalement, il y a, sur le territoire de Lens, il n'y a quand même pas une population importante d'étudiants et d'étudiantes, par comparaison avec, que ce soit peut-être Lille, même aussi d'une certaine manière Dunkerque ou même Boulogne-sur-Mer. Et la question que je me pose, sur cette question un peu du renouvellement de la population, mais aussi peut-être une partie des élites culturelles, peut-être économiques, est-ce que le fait de ne pas avoir, une masse d'étudiants et d'étudiantes importants, est-ce que ça joue aussi?
Oui, tout à fait. Et ce que ça permet de souligner, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début. Moi, j'ai pu observer quelque chose qui est assez important, c'est la question de l'âge, avec le fait que la plupart des électeurs et des électrices du Front National étaient jeunes, ou en tout cas, beaucoup de jeunes votaient pour le Front National. C'est aussi parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas du tout le même profil que des jeunes qui peuvent être à Lille, par exemple. Ce qui donne toujours un peu cette image d'une jeunesse à deux vitesses, où on aurait la jeunesse étudiante, plutôt bourgeoise des centres-villes, contre une jeunesse plus paupérisée dans un certain nombre de territoires. Donc, il ne faut évidemment pas tomber dans cette vision extrêmement binaire, parce qu'il y a des jeunesses très populaires dans les centres-villes aussi, et il y a des jeunes diplômés dans les territoires plus éloignés des agglomérations. Mais en fait, ça nous montre bien qu'au-delà de la question de l'âge, c'est aussi les conditions de vie qui amènent à des pratiques électorales différentes. Et il est évident qu'à 20 ans, lorsque ça fait 2 ans qu'on est en apprentissage ou qu'on a commencé à travailler, on n'a pas la même vie, on ne côtoie pas les mêmes individus, on n'a pas le même rapport au monde que si on est étudiant en sociologie à Lille. Et que donc, c'est véritablement ce vécu, et donc on va être, par exemple, amené à côtoyer des petits patrons. Quand on travaille et qu'on veut chercher un apprentissage, la personne qui va nous aider à pouvoir nous en sortir financièrement parlant, parce qu'on l'a dit, c'est des territoires dans lesquels les ressources sont assez rares, l'emploi est assez rare, bon bah ça va être un petit patron. Là où dans un territoire comme la métropole de Lille, les personnes qui vont nous aider à avoir des stages, ce sont rarement, ou en tout cas pas pour une partie étudiante de cette jeunesse-là, des petits patrons. Et donc on voit bien comment est-ce que les personnes qu'on côtoie, et c'est un petit peu ce qu'on disait, et qui est le fil rouge de ma thèse, comment est-ce que les personnes qu'on côtoie, les conditions matérielles dans lesquelles on vit, comment est-ce qu'on gagne notre vie, est-ce qu'on doit la gagner par nous-mêmes ou pas, et qui nous aide à le faire, ça a un impact très fort sur qui on va voter à la fin.
Et peut-être pour finir cette interview, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la part du vote réactionnaire raciste dans l'électorat du RN, dans le bassin minier, et puis peut-être surtout à Lens?
Alors, votre réactionnaire, c'est une expression que je trouve assez pertinente, parce que une nouvelle fois, elle permet un peu de faire un pas de côté par rapport aux images qu'on a eues pendant très longtemps du vote Front National. On l'a souvent qualifié de vote de colère, ou soit de vote d'adhésion, ou pendant longtemps, c'était aussi des gens dont on avait l'impression qu'ils voulaient renverser la table et tout changer. Et ce que j'ai pu observer avec l'évolution assez récente de l'électorat du Front National, j'appelle ça un vote réactionnaire, ou en tout cas un vote conservateur, dans la mesure où c'est aussi beaucoup des gens qui ne veulent pas que le monde change. Et pour qui le vote pour le Front National est une assurance que le monde ne va pas tant changer que ça, parce qu'ils ont le sentiment que si le monde change, ça sera à leur détriment. Que tout changement, ça sera d'une façon ou d'une autre, eux qui vont le payer, et ça, ils ne veulent pas. Et donc, ce vote frontiste est une garantie pour eux que le monde va rester tel qu'il est. La deuxième garantie qu'offre le Front National, c'est que, quitte à ce que le monde ne bouge pas et que leur situation ne puisse pas s'améliorer, parce qu'il y a, c'est ce qu'on l'a dit, une forme de défaitisme, ou en tout cas d'idée que le monde ne pourra pas aller mieux, Et c'est pour ça que des mesures de gauche comme augmenter le SMIC, reculer l'âge de la retraite, etc., c'est des mesures qui ont du mal à prendre dans ces territoires-là. Pas tant parce que les gens sont contre que parce que les gens pensent que soit ça n'est pas applicable, soit si c'est vraiment fait, eux le paieront d'une façon ou d'une autre. Et que c'est des choses que j'ai pu beaucoup entendre sur le terrain, ça va nous retomber dessus, etc. Et donc ce vote frontiste est une garantie que le monde va rester tel quel, et que d'autres populations, et ça va revenir avec l'idée du vote raciste, que d'autres populations, c'est ce que dit un sociologue qui s'appelle Benoît Coquart, que d'autres populations vont souffrir plus qu'eux, pour le dire ainsi, que, étant donné que ma situation ne peut pas s'améliorer, si jamais d'autres populations, donc notamment des populations racisées, peuvent, elles, avoir plus de difficultés à finir les fins de mois, enfin bref, toutes les lois que propose le Front National, bon bah c'est déjà ça de pris, et vu qu'on ne peut pas s'améliorer, on préfère que d'autres aillent moins bien. Et c'est pour ça que je dis que, et là c'est les travaux du sociologue, bon, voilà, assez récent, Félicien Faury, qui insiste bien sur cette dimension raciste du vote FN, raciste dans l'idée que le racisme est une relation de pouvoir, en tout cas une relation sociale, et c'est pas simplement dire je suis un peu moyennement très raciste, etc., mais que la matrice raciste qu'offre le Front National, elle trouve un débouché chez ces populations-là, elle est extrêmement centrale, dans l'idée que d'autres populations auront plus à payer le prix de nos difficultés que nous-mêmes, et dans un monde dans lequel les perspectives qu'offre la gauche sont pour l'instant peu enclin à être considéré par ces populations-là, ça marche très bien. Ce qui veut une nouvelle fois pas dire que c'est ancré en eux à vie et pour toujours. On l'a dit, le vote comme les représentations du monde social, elles sont mouvantes, elles changent dans le temps, dans l'espace, et que cette petite fraction d'électeurs du Front National qui votent tout le temps pour le Front National, etc., en fait ne représente pas du tout l'ensemble. Pour autant, même chez des électeurs intermédiaires, la question des discriminations et la question du racisme est assez centrale. Mais c'est voilà, essayer de comprendre comment est-ce qu'elle s'intègre en fait, dans un certain nombre de sociabilités très précises, et pourquoi est-ce qu'à un moment, ce racisme-là est politisé et permet de déboucher sur un vote pour le Rassemblement National.
On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Pierre Wadlow. Et je le rappelle, donc vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Lille. Et donc, vous travaillez sur la politisation des classes populaires dans le bassin minier et en particulier à Lens.
Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Micro Rebelle Hebdo, le magazine d'actualité du bassin minier et au-delà. Voilà, on termine cette émission par l'agenda social et culturel. Dimanche 8 septembre, Résistance et Espoir, une compagnie de danse palestinienne de passage à Calais. La troupe d'Apke, des jeunes du camp de réfugiés d'Askar, près de Naplouse, en Cisjordanie, vous invite dimanche 8 septembre à partager un moment inoubliable de danse, de témoignage et de solidarité. Mardi 10 septembre, à 19h, rencontre suite aux élections européennes et législatives. Le mercredi 31 juillet dernier, au cœur de l'été, 11 personnes engagées dans l'économie sociale et solidaire sur le bassin minier se sont réunies pour un temps d'échange et de confrontation suite à la séquence politique en cours depuis juin dernier. Élections européennes, dissolution, extrême droite aux portes du pouvoir, élections législatives. Dans le cadre de ces échanges, il a notamment été question des actions, initiatives dans lesquelles nous pourrions nous engager en tant que militants et militantes de l'ESS, dans le bassin minier. Une prochaine rencontre est envisagée mardi 10 septembre à 19h au Toit commun. Il se trouve au 15 rue René Lannoy à Lens. Le vendredi 13 septembre à 18h, il y a un atelier d'aide à la réparation de vélos. Ça se passe à l'atelier lillois Eugène Braquet, au 41 rue Eugène Jacquet, à Lille. de 18h à 20h30. Samedi 14 septembre, de 14h à 16h, il y a la permanence et les groupes de parole et de rencontres de Fierté Pas-de-Calais, au centre LGBTI Arras, rencontre des invisibles. Les secrets sont lourds à porter, un diagnostic de séropositivité est une nouvelle qui peut être difficile à gérer. Réussir à parler et se confier peut avoir un effet libérateur. Les Invisibles est un groupe de soutien pour les personnes vivant avec le VIH, ouvert à toutes et tous qui vivent avec le VIH ou non. Ce groupe offre écoute, soutien et information et permet de passer des moments agréables. Ce groupe n'est pas un groupe thérapeutique mais de partage. Ça se passe donc au centre LGBTI+, Arras, au 58 rue des Trois Visages. Et le samedi 14 septembre, il y a le village des associations de Lens. Et vous pourrez nous retrouver. Et oui, Micro Rebelle y sera, proposera un plateau radio avec des interviews d'associations présentes ce jour-là. Vous pourrez venir nous découvrir et rencontrer plein d'autres assos culturelles, sportives, sociales de Lens. Ça se passe toute la journée au stade Léo Lagrange. Et le samedi 14 septembre toujours, l'après-midi cette fois, de 14h à 17h, c'est le Festival Gardin, avec une visite apprenante au jardin d'animation de la cité du 12-14, rue du Bourdonnais à Lens, par l'association des Anges Gardins. Le mercredi 18 septembre à 18h, c'est le vernissage de l'exposition Terre commune au toit commun de Lens. La créatrice Art Moni exposera ses créations du 18 au 30 septembre au toit commun. Elle est visible du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le vernissage se fera donc le mercredi 18 septembre à 18h en présence de la créatrice au toit commun, 15 rue René Lannoy à Lens. Et pour les rassemblements hebdomadaires, on rappelle, à Lens, tous les vendredis à 18h, place de la gare, rassemblement pour la paix en Palestine. À Dunkerque, tous les samedis à 15h, rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza, place Jean Bar. Et à Lille, place de la République, tous les mercredis à 18h30, manifestation pour la défense des personnes sans papiers. Voilà, c'est la fin de cet agenda social et culturel. Vous pourrez retrouver toutes les dates et bien d'autres encore sur notre site internet microrebelle.fr. Cette émission Micro Rebelle Hebdo se termine pour cette semaine. N'hésitez pas à nous contacter et à retrouver tous nos autres podcasts sur notre site. Et on vous dit à la semaine prochaine.